le magazine des Nations Unies.
La MONUSCO en campagne sur la résolution 2348 et l'accord du 31 décembre 2016. Cette campagne s'étendra à toutes les provinces, a démarré jeudi dernier à Kinshasa, avec une conférence publique à laquelle ont pris part notamment des professeurs d'université, des étudiants et des représentants des organisations de la société civile. La communauté internationale célèbre le 5 mai de chaque année la journée internationale des sages-femmes. Comment les sages-femmes travaillent-elles au quotidien? Dans cette édition, un reportage de Jean-Pierre Elali Coco à l'hôpital général de référence d'Ndjili dans la suite de UNFPA, ici à Kinshasa. Enfin, l'UNESCO lance un plaidoyer pour la libération des journalistes incarcérés et la réouverture des médias fermés en RDC. L'agence onusienne parle d'un bilan alarmant pour ce qui est de la liberté de la presse dans ce pays, se basant notamment sur le rapport de l'ONG Journalistes en danger, rapport publié à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Le représentant de l'UNESCO est l'invité de notre magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et merci de suivre cette édition du magazine des Nations Unies. La résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'accord de la CINCO ont fait l'objet, jeudi dernier à Kinshasa, d'échanges au cours d'une conférence publique dans le cadre d'une campagne d'explication lancée par la MONUSCO. Un condensé d'Honoré Missinga Kalala sur cette campagne.
Le siège administratif de la MONUSCO situé dans le complexe UGS Africa a servi de cadre à cette conférence publique. Professeurs d'université, étudiants et membres de la société civile et des organisations syndicales y ont pris part. Concernant la résolution 2348, Monsieur Dominique Adjaouinou du bureau électoral de la mission donne ici deux priorités du mandat de la MONUSCO.
D'une part, assurer la protection des civils en usant des moyens civils et militaires de la mission, et deux, appuyer les processus politiques, notamment la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et le processus électoral.
Pour le secrétaire général de la CINCO, un des orateurs du jour, bien comprendre l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est notamment tenir compte de l'esprit qui a conduit à son élaboration, l'abbé Chollet.
La nécessité de trouver un consensus global sur la gestion du pays après le 19 décembre 2016. L'esprit, c'est aussi la recherche de l'équilibre dans la répartition des responsabilités en vue de garantir l'organisation prochaine de bonnes élections que nous souhaitons crédibles et apaisées.
Il n'y a pas d'autre issue pour le pays que l'organisation des élections, sinon la RDC va sombrer dans le chaos, a prévenu l'homme de Dieu.
Autre actualité, toujours avec la MONUSCO, cet appel de son porte-parole pour la réouverture des médias fermés. Charles-Antoine Bambara a lancé cet appel mercredi dernier au cours de la conférence des presse des Nations Unies à Kinshasa et à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le porte-parole de la MONUSCO a d'ailleurs souligné à ce propos que l'ouverture des médias fait partie des mesures de décrispation prises dans le cadre de l'accord du 31 décembre 2016. Suivez plutôt les propos de Bambara, recueillis par Honoré Missinga Kalala.
Dans ces interactions, le représentant spécial lui-même a évoqué plusieurs fois le cas des radios ou des médias fermés. On essaie d'en faire le suivi. Moi-même, j'ai été en contact aussi avec le CESAC pour voir dans quelle mesure ils peuvent aider à faire avancer la cause de la presse de façon générale dans le pays. Mais vous savez aussi que ça fait partie des mesures de décrispation. Ces mesures de décrispation, malheureusement, n'ont pas encore été mises en œuvre. Et là également, le représentant spécial joue beaucoup pour faire avancer l'adoption de ces mesures de décrispation qui touchent donc le domaine de la presse. Nous souhaitons et nous appelons de tous nos voeux les acteurs politiques qui nous entendent qu'à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse, donc quelque chose soit fait dans ce sens pour libéraliser vraiment la presse en RDC.
Magazine des Nations Unies. Décryptage.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé mercredi dernier un atelier de sensibilisation sur les droits de la personne arrêtée à l'intention d'une trentaine d'officiers commandants de la police judiciaire qui constituent l'oreille et l'œil du parquet. Madame Mwanda Umba Sylvie est substitut du procureur près le tribunal de Matete et l'une des intervenants. Elle s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Madame Mwanda Umba Sylvie, bonjour.
Bonjour.
Vous participez à l'atelier sur les droits de la personne arrêtée et les instruments de protection qui est organisé ici par la MONUSCO. Est-ce que nous pouvons connaître l'objectif visé par cet atelier, madame?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Au fait, c'est juste une question de routine parce que les choses qui sont dites ici sont les choses que nous connaissons déjà, mais seulement qui généralement ne sont pas respectées. Et c'est pourquoi nous n'arrêtons pas d'organiser ce genre de choses pour répéter et répéter pour que les choses puissent changer.
Quelles sont ces choses-là et qui ne sont pas respectées?
Cet atelier a été initié à l'intention des commandants de la police. Cela porte sur la détention, le droit des personnes arrêtées. Vous savez que ce sont eux qui sont les plus proches de la population. Comme nous dites, ce sont les yeux et les oreilles du parquet. Et généralement, c'est eux qui commencent par arrêter. Il faut toujours les rappeler qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser lorsqu'ils arrêtent. La vie humaine est sacrée. Il y a des principes de droit. Il y a la constitution qu'il faut respecter chaque fois qu'on arrête des justiciables.
Madame, vous avez été l'intervenante dans cet atelier. Est-ce que nous pouvons avoir une idée sur les contenus de votre intervention, madame?
Merci, monsieur le journaliste. Nous avons beaucoup ciblé, comme nous avons dit tantôt, le droit de la personne détenue et aussi les instruments de protection. Nous avons tablé beaucoup plus sur le délai de garde à vue que la plupart des policiers ne respectent pas, qui est de 48 jours.
48 heures ou
48? 48 heures, pardon. 48 heures, vous l'avez bien dit, 48 heures. C'est parmi les droits des personnes arrêtées qui ne sont pas respectées ici dans notre pays. Ça fait maintenant plus de 3 mois que nous sommes en train d'effectuer conjointement avec la MONUSCO les contrôles des amigos. C'est ça qui nous a permis de pouvoir relever ces irrégularités que nous avons voulu porter à la connaissance des commandants de la police. En dehors de cela, il y a aussi le fait d'arrêter quelqu'un pour une infraction qui a été commise par exemple par une autre personne. Donc, nous avons insisté sur la responsabilité pénale qui était individuelle. On ne peut pas arrêter un parent pour une infraction qui a été commise par son enfant, par exemple. Donc c'est parmi là les points que nous avons ciblés. Il y en a beaucoup. Ces personnes arrêtées ont beaucoup de droits. Nous avons répété le droit d'être assisté par un conseil, le droit d'être de respecter sa vie humaine. On ne peut pas les déshabiller, on ne peut pas les torturer. Nous sommes revenus sur ces différents droits-là pour que ces personnes, ces commandants qui sont devant nous, puissent pouvoir le savoir et continuer à le mettre en pratique.
Madame, pour terminer, cet atelier a un rôle vraiment pédagogique. Qu'est-ce que vous attendez du changement du comportement de ces officiers de police qui sont ici? Je crois qu'ils sont une quarantaine. Et quelles sont les attentes de cet atelier, en d'autres termes?
Oui, nous voulons qu'il y ait un changement des comportements de la part de ces commandants. Nous l'avons dit tout à l'heure, ensemble et nous avons une mission noble. Priver quelqu'un de sa liberté, ce n'est pas une chose que nous devons prendre à la légère. Cela doit être fait, mais dans le respect des règles. Donc en sortant d'ici, ils doivent se rendre compte que nous jugeons nos semblables. Ces personnes que nous sommes appelées à arrêter, c'est considéré comme si demain ou après-demain, ça pourrait être un frère, une sœur, une amie, une tante ou un parent quelconque. Donc, nous attendons qu'en sortant d'ici, qu'ils savent respecter tout ce qui leur a été demandé à faire ici, à considérer la vie humaine comme étant sacrée. Et lorsque nous avons cette idée dans la tête, à aussi considérer que toute personne, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu, est considérée innocente. C'est la présomption d'innocence telle que la loi le déclare.
En tout cas, Madame Mwanda Umba Sylvie, Radio Kapi vous remercie.
Merci à vous.
En plus bref, d'abord avec le volet humanitaire, une mission mixte, un Food for Peace par USAID s'est rendue cette semaine au Tanganyika pour évaluer la situation humanitaire due au conflit que pose dans cette province, Toa et Bantou. Pendant toute la semaine, la mission a notamment fait le tour des sites de déplacés, notamment à Moni et à Lukwangulo. Restons encore dans ce créneau humanitaire. Plus de 57 millions de dollars américains alloués par le Fonds humanitaire de la RDC en 2016. Information livrée par OCHA, citant un rapport annuel publié en début de semaine. OCHA précise que 66 projets ont bénéficié du Fonds humanitaire pendant cette période. Autre précision, les financements de ce fonds en 2016 ont couvert toutes les provinces de la RDC et dans tous les secteurs de l'intervention humanitaire, notamment l'éducation, l'assainissement, l'eau, l'hygiène, la nutrition, la santé et la sécurité alimentaire. Enfin, à Kinshasa, plus de 100 femmes, leaders politiques et de la société civile, ont obtenu leur brevet de participation à une formation en technique d'accompagnement personnalisée. Cette formation a duré un mois et demi, du 12 février au 24 mars 2017. Elle a été organisée par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, avec l'appui financier et technique de l'ONU Femmes et du CNUD. La cérémonie de remise de ces brevets a eu lieu vendredi 5 mai dernier dans la capitale.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous étions dans le sommaire. La situation des journalistes en RDC est alarmante, estime l'UNESCO. L'agence onusienne se base sur les récents rapports de l'ONG Journalistes en Danger, faisant état de 109 cas d'atteinte à la liberté de la presse de décembre 2016, des journalistes incarcérés ou traduits en justice. Le représentant et chef de bureau de l'UNESCO lance donc un plaidoyer en faveur des journalistes arrêtés et la réouverture des médias fermés à ce jour. Messieurs, Abdourahmane Diallo évoque aussi la nécessité de l'examen de projets de loi au Parlement pour promouvoir la liberté de la presse. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Monsieur Abdourahmane Diallo, bonjour.
Bonjour.
La situation de la presse n'est pas luxuriante en République démocratique du Congo. Et j'aide dans son dernier rapport à parler des 69 cas d'atteinte à la liberté de la presse de décembre 2016 à ce jour. Des journalistes sont incarcérés, d'autres traduits en justice et comme vous le savez, certains médias sont fermés. Que pense l'UNESCO devant cette situation un peu sombre et que peut faire l'UNESCO pour décanter cette situation ? Monsieur Diallo.
Merci avant tout pour cette invitation. Je tenais d'emblée à vous souhaiter une joyeuse fête. En effet, ce constat que nous a dressé hier GED et l'UNPC à l'occasion de cette célébration organisée au sens de ressources des médias est alarmant et très 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 négatif. L'UNESCO condamne et déplore ce bilan que nous enregistrons à peine sur une période de 6 mois. Et j'aide à constater une évolution sur la même période du cas d'attaque, de violation de médias. L'UNESCO condamne tout acte, toute violation, toute atteinte à un journaliste, à une femme ou à un homme journaliste ou à un média dans l'exercice de ses fonctions. Ce type d'ONG, tel que GED et tous les autres acteurs qui accompagnent ce secteur, donc à l'instar de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies en charge de l'éducation et des sciences, mais de la communication et de l'information, qui va donc accompagner déjà ces exercices de monitoring. Ce sont des exercices de veille qui ont pour objectif d'attirer l'attention de toute la communauté, de toute la société, le gouvernement, les autorités et les différentes parties prenantes pour condamner ces faits et pour trouver des solutions. Donc nous faisons le plaidoyer pour que tous les cas qui sont actuellement au niveau de la justice et qui n'ont pas encore abouti puissent trouver une solution. Nous pensons en particulier aux hommes et femmes qui sont présentement incarcérés.
Et en ce qui concerne les médias qui sont encore fermés, vous avez peut-être autre chose à faire de ce côté-là.
Le plaidoyer est le même à l'endroit des autorités qui sont compétentes en la matière. Le plaidoyer est que pour que tout organe de presse, tout média soit ouvert et ne soit pas empêché d'exercer cette contribution, je dirais, à la construction de cette grande démocratie. Maintenant, si ces interruptions ou ces fermetures font l'objet d'une procédure au niveau de la justice, nous faisons le plaidoyer pour que les cas soient directement adressés et qu'il y ait une solution pour que ces médias puissent librement s'exprimer et apporter l'information due et souhaitée par les communautés.
Monsieur Diallo, deux lois se font toujours attendre au niveau du Parlement. Il s'agit de la loi portant sur la dépénalisation des délits de presse et celle liée à l'accès à l'information. Est-ce que vous avez des moyens pour pousser les législateurs congolais à voter ces deux lois ?
Oui, merci. Il s'agit là de deux chantiers majeurs. Il y a une loi et un processus qui doit aboutir déjà dans un projet de loi. En premier lieu, vous avez la loi sur l'accès à l'information. d'information qui a déjà fait l'objet d'un premier traitement au Sénat et qui se trouve en attente d'être examiné au niveau de l'Assemblée. Et notre rôle ne consiste pas, je dirais directement, à pousser le législateur, mais nous l'avions clairement dit hier lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous avons plaidé, nous continuons à plaider auprès des autorités législatives pour que cet examen soit fait à l'occasion de cette session parlementaire. Vous vous souviendrez que l'année dernière, lorsque nous avons célébré la première journée mondiale pour l'accès à l'information, le 28 septembre, nous avons rappelé aussi que la RDC était un des pays pionniers aussi qui avait engagé ce processus, que nous espérons aboutir cette année où la République est confrontée et engagée dans un processus de transition très important. L'adoption de cette loi serait vraiment une grande victoire de la République démocratique du Congo. Nous allons donc faire ce plaidoyer avec les autres partenaires techniques et financiers, avec les bilatéraux, à l'instar de la Suède qui a fait un grand plaidoyer l'année dernière, qui a été le premier pays à s'être doté d'une loi sur l'accès à l'information il y a plus de 2 siècles maintenant. Le deuxième dossier concerne la dépénalisation des délits de presse, une problématique que tient à cœur le ministère des médias et de la communication. C'est ainsi que depuis plus de 2 ans, un exercice est engagé avec l'aide de l'UNESCO pour préparer un projet de loi sur la dépénalisation des délits de presse. Donc il y a eu des exercices techniques appuyés par l'organisation, par l'UNESCO et d'autres partenaires techniques et financiers. Le souhait du ministère est de convoquer un grand forum national sur cette problématique afin d'aboutir à un premier projet de loi qui va suivre ensuite donc son chemin au niveau du gouvernement et puis au niveau des deux chambres.
Mais il y a un autre défi, Monsieur Diallo, c'est la formation des journalistes. On sait que l'UNESCO fait des efforts dans ce domaine. Est-ce que vous avez encore d'autres projets en vue pour essayer de donner une formation adéquate aux journalistes congolais pour leur déontologie et éthique professionnelle?
Oui, merci. La question de la formation est cruciale et au cœur même, je dirais, de la liberté d'expression. Il faut que les journalistes soient des journalistes professionnels et responsables. L'UNESCO dispose de programmes au niveau de la formation initiale et pour la formation continue. Nous avons développé des différents modules pour l'enseignement du journalisme qui définissent les normes du journalisme de qualité. Le programme de l'UNESCO pour l'enseignement du journalisme propose un cadre de formation complet qui peut être adapté à différents besoins, à différents niveaux. Il y a aussi des modèles de formation continue sur plusieurs domaines, la communication scientifique, le changement climatique, les médias et la prévention des conflits, la liberté de la presse et le maintien de l'ordre public. Il y a des modules qui ont été développés à l'endroit des forces publiques, des forces de l'ordre, pour qu'ils connaissent mieux les médias et pour qu'ils puissent avoir un comportement responsable et averti face aux médias. Il y a à peine 2 semaines, il y avait un forum que nous avons organisé ici à l'endroit des radios communautaires, qui sont donc l'autre composante des médias très importants. Donc c'est un cycle de formation que nous poursuivons. Nous avons une activité aussi, un chantier que nous allons lancer dans l'ex-Katanga, du côté de Kalemie, pour accompagner les efforts de dialogue et de consolidation de la paix après les conflits récents qu'il y a eu entre les communautés Twa et Luba, avec les radios communautaires et Radio Okapi et d'autres organes. Nous allons organiser aussi un forum et des formations à l'endroit des radios. Donc là, c'est pour ne vous citer que ces 3 chantiers que nous estimons majeurs pour ces 6 prochains mois de l'année 2017. Et bien sûr, vous avez les deux chantiers législatifs.
Oui, ça c'est au moins du concret, mais pour terminer, Monsieur Diallo, un petit message à l'égard des journalistes à l'occasion de cette journée qui leur est dédiée.
Ben, je voudrais rappeler le thème de la célébration de cette année, de l'édition 2017, des esprits critiques pour une période critique. Les journalistes doivent prendre conscience de leur rôle dans la construction de cette société pacifique, juste et inclusive, ce au travers d'un engagement qui reflète à la fois un sens du professionnalisme élevé et un degré de conscience soutenu du rôle qui est le leur dans la société congolaise et africaine. Donc c'est un message d'encouragement, un message de solidarité que je souhaite partager avec eux, les féliciter pour le travail qu'ils font tous les jours dans des conditions pas faciles, mais qu'ils font avec passion et avec professionnalisme. Nous sommes là pour les accompagner, pour leur exprimer notre solidarité, pour dire qu'on a besoin d'eux. C'est grâce à eux que nous avançons, que nous nous réveillons le matin, que nous connaissons notre boussole du quotidien. Nous avons besoin d'eux.
Monsieur Abdourahman Diallo, je vous remercie.
Merci à vous.
Le 5 mai de chaque année, c'est une journée dédiée aux sages-femmes pour honorer cette profession, combien essentielle mais ignorée du grand monde. Comment ces sages-femmes travaillent-elles au quotidien? Jean-Pierre Elali Coco nous propose un dossier réalisé à l'hôpital général de référence d'Ndjili qui emploie 12 accoucheuses converties en sages-femmes formées à l'ISTEM sur base d'un programme aux normes internationales avec l'appui de UNFPA. Suivez.
L'hôpital général de référence d'Ndjili comprend 3 pavillons, l'un d'eux réservé à la maternité. C'est ici qu'elle travaille avec enthousiasme 11 sages-femmes, toutes vêtues en rose, visiblement contentes de leur profession. D'abord le service des planning familiales et des violences sexuelles, puis celui des consultations prénatales. Ici, c'est la porte d'entrée de toutes les femmes enceintes. La salle de gynécologie exiguë reçoit et soigne les femmes et nouveau-nés par césarienne ou victimes de malaria. Madame Rachel Massingou, sage-femme et chef de service, explique.
Ici, nous nous occupons de femmes césarisées, les femmes qui ont des myomes, et puis on a fait l'intervention. Elles sont ici chez nous en gynéco. Et nous avons aussi des femmes qui ont des grossesses avec paludisme. Et puis nous avons aussi des femmes anémiques et qui ont aussi des grossesses. Bon, par jour, ça peut être 3 ou 4 femmes s'il y a des interventions. Et s'il y a aussi des cas qui viennent d'ailleurs.
Dans la salle de la maternité, une dizaine de femmes, toutes en blanc, avec leur nouveau-né. Elles sont prises en charge par un autre groupe de sages-femmes. L'une d'elles dit sa satisfaction.
En tout cas, j'ai reçu un bon accueil ici et puis j'ai accouché dans de bonnes conditions. Je félicite beaucoup le maman sage-femme qui m'a accueilli parce que moi, j'ai été même bercée pour donner naissance à mon fils. Et puis, le travail a été bien dirigé. En tout cas, j'étais comme si un bébé entre leurs mains. En tout cas, je le remercie beaucoup. Pour le travail.
Et Madame Ibondo Magu, chef de service.
Nous recevons les femmes qui ont déjà accouché après 6 heures à la salle d'accouchement, on les envoie chez nous. Quand elles viennent ici, nous les accueillons. Nous changeons les habits. Nous avons l'habitude de contrôler le globe vésical et le globe de sécurité. Et nous travaillons, nous faisons les massages au niveau de l'utérus, nous contrôlons les signes vitaux, la tension artérielle, la respiration.
Vous recevez ici combien de femmes par jour qui accouchent?
Par jour, on reçoit 5 à 6 femmes.
Enfin, la salle d'accouchement. Ici, un autre groupe de sages-femmes est à l'œuvre. Madame Marie-Thérèse Ikouladio, chef de service, nous montre les lits d'accouchement vétustes où les femmes donnent la vie. Elle décrit les besoins.
Et je peux le dire tout haut, s'il y a des paternels qui m'écoutent en ce moment. Nous avons besoin d'un monitoring ici à la salle d'accouchement, d'un soniquet et d'une échographie. On doit aussi nous apprendre comment on fait l'échographie chez nos femmes que nous recevons.
Malgré ces difficultés, ces sages-femmes traduisent bien les symboles d'une équipe qui gagne, la ferveur et l'amour d'une noble profession qui semble méconnue en RDC.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Je vous propose d'écouter cette question posée le mercredi dernier au cours de la conférence de presse des Nations Unies et bien évidemment la réponse du porte-parole de la MONUSCO.
Elana Kankou, Radio Télé 7. Monsieur Bambara, l'UDPS confirme le rapatriement de celles qui s'équipent pour les 12 mai prochains. Quelle disposition que la MONUSCO a prise en rapport avec le rapatriement qui va mobiliser la foule?
Merci pour cette question. Il faut dire que, et nous l'avons souvent répété ici, hein, lors de nos différentes conférences de presse, les forces de sécurité nationale congolaises sont commises à la sécurisation des événements de ce genre. Bien entendu, si nous sommes sollicités, nous, ça veut dire la force de la police de la MONUSCO, par exemple, si elle est sollicitée, elle pourrait apporter éventuellement son appui, son soutien à la sécurisation de cet événement. Mais la première responsabilité dans ce genre d'événement, c'est bien entendu les forces de sécurité nationale, notamment la PNC, qui est chargée donc de la sécurité dans ce genre d'événement.
Magazine des Nations Unies, portrait d'Isis.
Je m'appelle Onésime Mukandila, mon poste nom c'est Nyandou. Je suis journaliste à Radio Kapi. Mon parcours scolaire, j'ai étudié à l'Institut Baïko, à Mbujimaï, au Kasaï Oriental. Puis les études secondaires et humanitaires, je les ai passées à l'Institut Moulemba et d'API SP Mbujimaï toujours. Pour ce qui est de l'université, j'ai été à l'IFASIC où j'ai passé 5 ans de journalisme et j'ai fini précisément en journalisme politique intérieure en option audiovisuelle. Parcours professionnel, je suis passé d'abord comme fonctionnaire de l'État. J'étais à la division provinciale de l'information et de la communication. Puis j'ai eu à collaborer à la RTNC 2 comme co-présentateur d'une émission avec Josette Tomboula Matali. L'émission s'appelait Lecture et Livre pour tous. Dans d'autres médias de la place aussi, j'ai eu à passer quelques temps comme collaborateur. Et finalement, j'ai débarqué à Radio Kapi vers 2007, décembre 2007. Et j'ai eu à signer mon contrat comme agent des Nations Unies en 2013, précisément. Comme journaliste à Radio Kapi, je suis présentateur du journal en français, présentateur de la revue de presse quinoise, à l'époque aussi la revue de presse africaine et de l'actualité internationale. Pour le moment, je suis en tout cas à la présentation un reporter. Lorsque j'arrive, ce que je fais en premier, je commence par la prière. Naturellement, puisque je suis chrétien, je ne vais pas manquer de le mentionner. Après la prière, comme je travaille très souvent avec l'internet, je fouine un peu, j'essaie de farfouiller ça et là, trouver, glaner des informations que je dois diffuser. Pour ce qui est par exemple de la revue de presse, je vois dans les différents sites d'information qui locaux ici, je fouine, je farfouille, je traite en tout cas les informations de façon à les présenter de manière potable au micro pour vos fidèles auditeurs. Voilà sommairement ce que je fais. Alors, de mon temps libre, de préférence, je suis chantre et dirigeant, encadreur, dirigeant de plusieurs chorales de la place, notamment la chorale Les Messagers de Fatima, c'est à Notre-Dame de Fatima, Angeli Trinitatis, c'est à la paroisse Sainte-Trinité à Matete. J'ai eu également à donner des coups de main à la chorale Sousum Corda de Saint-Damien à Mimosa. Mon temps, en tout cas, je le passe plus en présence de Dieu, puisque j'aime chanter pour Dieu d'abord et avant tout. Pour ce qui est de loisirs, j'aime le football. Je suis un supporter de Barcelone. Mon joueur préféré d'ailleurs c'est Lionel Messi, pour tous les Barcelonais qui nous suivent. Pour ce que j'aime manger, alors mon plat préféré c'est, je préfère le dire dans ma langue maternelle, Shima Mikaleji Indakal. Alors c'est le foufou avec le feu de manioc accompagné de fretin. Voilà, c'est ça mon plat préféré. Alors, pour ce qui est de projet, je n'aime pas trop en parler parce que, bon, je me dis l'avenir appartient à Dieu. Dieu seul sait, selon le dessin qu'il a tracé pour nous, ce qu'il nous réserve. Et je dis grand merci à tous les auditeurs de Radio Kapi et à tous ceux qui nous suivent, à tous nos collègues de service.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Notez dans vos carnets ces deux rendez-vous des Nations Unies dans la semaine qui commence, du 8 au 9 mai. Ce sont des journées du souvenir et de la réconciliation en l'honneur des morts de la Seconde Guerre mondiale. Et puis le 10 mai, c'est la journée mondiale des oiseaux migrateurs, une journée qui intéresse le programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est déjà la fin du magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama. La mise en onde a été assurée par Sylvain Matundou à la réalisation et au reportage Jean-Pierre Elali Coco. Au reportage également, Honoré Nifinger, sous la supervision de Martin Seboujangoué. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt sur Radio Capi. Très bonne suite des programmes. À bientôt.